C'est une adresse très personnelle à Jésus, suite à des racines chrétiennes qui se sont un peu perdues. Thomas Guillaume Bataille est athée. Il y a pourtant des phrases qui restent ancrées dans l'esprit. Aimez-vous les uns les autres. Il y a un goût certain pour les églises, pour le blasphème aussi. Il y a des invocations au cas où, tout bas, on prie Dieu dans des situations critiques, parce que quand même, on ne sait jamais. On est prêt à attendre des signes. Il y a aussi un père anticlérical qui, lui, a eu la foi. Accompagné par Véronique Samouilov, Thomas Guillaume Bataille part en quête de ses racines chrétiennes.
Lundi 15 avril 2019, après Jésus-Christ. Ma fille est sous cortisone à cause d'une otite, et ça la met dans un état horrible. J'attends ma mère qui remonte de Lyon en voiture et qui doit venir me déposer un meuble. À 19h34, ça fait déjà 5 heures qu'elle roule, elle m'envoie un texto.
Notre-Dame brûle et va me retarder.
Et elle joint une photo des flammes au loin, prise depuis son véhicule. À 20h20, ma mère arrive enfin.
Oui ?
On transbahute le meuble jusqu'à l'appartement. Elle mange une banane, boit un verre d'eau et repart chez elle à Chevilly-la-Rue.
J'arrive.
Je couche les enfants et je vais sur Instagram. Je revois au moins 20 fois l'effondrement de la flèche de Notre-Dame. Ça me fait penser au World Trade Center le 11 septembre 2001.
Putain, pour Notre-Dame, j'ai peut-être pas le mot, mais enfin, ça fait rien.
Moi, je dis à côté, je suis très heureux de l'avoir tué.
Ouais, moi aussi, c'est le pire jour de ma vie.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes.
Certaines vidéos montrent des gens qui chantent en chœur dans la rue face à Notre-Dame en flammes. Et moi, dès que plusieurs personnes chantent en chœur, j'y peux rien, ça m'émeut. Je suis ému et en même temps, comme j'ai l'esprit mal tourné, je ne peux pas m'empêcher de penser que parmi ces bouches qui chantent l'Ave Maria avec ferveur, certaines ont aussi récemment pu chanter ça.
Ils vivent n'importe comment, mais ils veulent être parents. Allons les gars,
les gars, les gars.
Le régime républicain commet une nouvelle injure au nom de la laïcité.
À 22h14, nouveau texto de ma mère. Je suis arrivé.
Ça y est, je suis arrivé, cramé
telle la cathédrale.
Gros, gros bisous.
Gros bisous. Lundi 15 avril 2019, après Jésus-Christ, Notre-Dame flambe, comme flambent les tympans de ma petite Anouk. Mes racines chrétiennes, confession d'un athée qui aime la Bible, les églises et le blasphème. Une expérience radiophonique de Thomas Guillaume Bataille et Véronique Samouilov.
I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing
Mercredi 17 avril 2019, après Jésus-Christ. cher Jésus, je pense avoir été très sage cette année, alors je t'implore de m'offrir tout ce que je n'ai de cesse de te demander. Cesse de faire la sourde oreille au nom du Père et de tous les autres. Il y a une chose que j'aime bien faire quand j'entre dans une église, c'est lire ce que les gens écrivent dans les livres de vœux. Je sais que c'est pas correct, mais je peux pas m'en empêcher. Il y a les demandes très ciblées.
Seigneur Dieu, aidez-moi pour mon rendez-vous avec la DRH.
Ou bien...
Mon Dieu, faites que Antoine et Sandra reviennent ensemble et que le bébé qu'attend Sandra parvienne à les rapprocher. Et faites qu'il soit plus gentil avec moi.
Il y a les messages de remerciement. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma
Seigneur,
vie.
Pour tout ce que tu fais dans ma vie. J'ai confiance en toi. Je dispose tout entre tes mains.
Il y a les messages des fous qui remplissent plusieurs pages d'une écriture qu'on ne déchiffre que par petits bouts. Apocalypse, Jésus sauve les âmes, envoie tes armées. Et puis parfois il y a des blagues potaches écrites par des enfants.
Bonjour Jésus, j'espère que tu vas bien. Moi oui. J'ai fait 3 crottes au début des vacances et ensuite 8, puis 12. Puis ça n'a pas arrêté d'augmenter. Signé Augustine et Juliette.
Et aujourd'hui je viens ajouter mon message à tout cela. Seigneur, si je fais un examen attentif de mon âme, il me semble bien que je ne crois pas en toi. Et pourtant, il m'arrive parfois de douter quant à mon absence totale de foi. Par exemple, j'ai un goût prononcé pour le blasphème. Or, ne faut-il pas croire un peu en toi pour apprécier le blasphème? Deuxième élément. Jésus est un de mes héros. Enfin, j'adore entrer dans tes églises. Parfois, j'y pénètre seulement quelques secondes pour ressentir l'atmosphère du lieu, pour écouter les bruits de la ville s'atténuer, voir le soleil passer à travers les vitraux. Mes parents ne m'ont pas fait baptiser, ils étaient athées et communistes. Cela dit, avant d'épouser le marxisme et ma mère, mon père a été tenté par le séminaire. Je me souviens aussi que l'une des expressions favorites de ma mère, quand ses 3 enfants lui pompaient un peu l'air, c'était « Si ça continue, je vais partir au couvent ». Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et je signe Thomas. Post-scriptum, si tu existes, fais-moi signe, toi aussi.
Nous sommes rue Massillon et la rue Massillon donc donne sur un des flancs de Notre-Dame en travaux. Il y a un périmètre très large qui empêche qu'on approche vraiment. Et je suis là avec une dame qui m'a mis au monde. Je t'ai demandé de venir, maman, pour que tu me racontes. J'ai pas eu de rapport particulier à Jésus avant que j'entre à la fac de lettres et que je m'intéresse à la Bible par obligation.
Si, il y a eu le fameux épisode de Florence.
Ah oui.
Qui fut un déclic. Et tu avais 11 ans, là. Et tu étais donc très passionné, tu restais très longtemps devant tous les tableaux, la Vierge, Jésus, mais sans commentaire.
Maintenant que tu me parles de Florence, je me souviens d'être tombé en arrêt, notamment sur la Pietà de Michel-Ange. Jésus dans les bras de sa mère, Sainte Marie.
Tu avais vu beaucoup de mères à l'enfant, une vierge avec son bébé Jésus dans les bras, et tout d'un coup tu la voyais avec un corps d'adulte dans les bras et un corps de quelqu'un qui était mort. Donc je me sentais un peu figée devant ce spectacle, mais tu n'as pas un mot. mais tu es resté longtemps devant la piéta.
Est-ce que tu te souviens de la prière Sainte Marie?
Sainte Marie. Attends, ça va me revenir. Il faut attendre 2 secondes. Alors, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Et ça se termine par Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous.
Que votre nom
soit sanctifié, que votre nom... Non, mais ça c'est notre Père, mais il m'égare complètement, il est toujours aussi mauvais. Bon, alors reprenons. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes Jésus, le fruit de vos entrailles. Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Et Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous.
Alors, silence, ça tourne, action.
Là.
La tour, le titre.
Ok. Lecture de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 20, verset 24. Le jour de la résurrection. Or, Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque vint Jésus. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit,
« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. »
8 jours après, Jésus vient, puis il dit à Thomas, « Porte ton doigt ici, voici mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais croyant. » Thomas lui répondit,
« Mon Seigneur et mon Dieu. »
Jésus lui dit, « Parce que tu me vois, tu crois. » Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru.
Paris, 21 avril 2019, après Jésus-Christ. Je me rends à l'église Notre-Dame de Lorette pour enregistrer la messe de Pâques. Il y a un souvenir qui me revient tout de suite en tête. Je devais avoir 11 ou 12 ans et mon père me dit un dimanche de Pâques, chiche, on va faire les courses au village déguisées en œufs de Pâques. Alors on avait pris chacun notre écharpe et on l'avait enroulée autour de notre crâne en faisant un gros nœud d'œuf. Et on était sortis comme ça, 20 minutes de course, déguisés en œuf. Père m'avait dit que ce serait encore plus drôle si on faisait tout ça à l'air de rien.
Comme un œuf. On écoute le prêtre, on chante. Je suis sans cesse à contre-temps quand il faut se lever, se rasseoir, dire Amen ou Alléluia. À un moment, le prêtre passe dans les rangs avec une branche feuillue qu'il trempe dans l'eau et la secoue pour éclabousser les fidèles. J'en reçois une petite goutte sur le bout du nez.
Il vit et il crut.
Des lectures, des chants, encore des lectures.
Va recevoir dans le feu de son baptême, va recevoir une bouchée.
Ma voisine, une vieille femme, se tourne vers moi en me tendant la main et elle me dit « la paix du Christ ». Je lui serre la main en répétant « la paix du Christ ».
De celui qui s'y dispose. Signe étrange pourtant en cette semaine où nous avons vu ce même élément, le feu, devenir un immense brasier destructeur.
Et là, il y a un petit moment de flottement.
Aujourd'hui, jour de Pâques en l'année sainte, ici, dans l'insigne basilique de Notre-Dame de Paris, j'accuse l'Église catholique universelle du détournement mortel de nos forces vives en faveur d'un ciel vide. J'accuse l'Église catholique d'infecter le monde de sa morale mortuaire. En vérité, je vous le dis, Dieu est mort. Aujourd'hui, jour de Pâques, nous clamons la mort du Christ Dieu pour qu'enfin vive l'homme.
Chers auditeurs, vous venez d'assister à une reconstitution du scandale de Notre-Dame. Le 9 avril 1950, lors de la messe de Pâques à Notre-Dame de Paris, un jeune homme de 22 ans, Michel Moore, s'est faufilé déguisé en franciscain jusqu'à la chaire. Et devant 10 000 personnes venues du monde entier, il a prononcé le discours que vous venez d'entendre. Avant même d'avoir pu terminer sa déclaration, Michel Moore a dû fuir la cathédrale, menacé de lynchage par la foule des fidèles et pourchassé par les gardes suisses qui protégeaient Notre-Dame à l'époque.
J-E-S-U-S-S-A-U-V-E. Jésus sauve. Jésus sauve les âmes. Apocalypse. Envoie tes armées. Jésus est le chef des anges. Aimez-vous les uns les autres.
Lecture de l'Évangile apocryphe de Thomas, Logion, numéro 29. Jésus a dit, si la chair est venue à l'existence, c'est à cause de l'esprit. C'est une merveille.
Alors, si la chair est venue à l'existence à cause de l'esprit, il ne faut pas dire c'est à cause de l'esprit, parce que c'est une hypothèse. Tu vois, il dit, si la chair est venue à l'existence, c'est-à-dire s'il y a d'abord eu l'esprit et ensuite la chair. Tu vois ?
Ouais, c'est comme de la poule ou de l'œuf.
Voilà, exactement, c'est la poule ou l'œuf, exactement. Et il dit, c'est une merveille. Mais si c'est l'esprit qui est venu à l'existence à cause de la chair, là, c'est encore plus merveilleux. Tu comprends ? C'est une merveille de merveille.
C'est une merveille de merveille. Et moi, je m'émerveille de ceci. Comment cette richesse s'est-elle mise dans cette pauvreté ? Point d'interrogation.
Joyeux anniversaire.
Paris, 26 avril 2019 après Jésus-Christ. Nous fêtons les 10 ans de mon fils aîné Joachim. L'accouchement a eu lieu à la maternité Saint-Vincent de Paul.
Bah, les 9 mois étaient déjà passés depuis plusieurs jours. Les médecins ont finalement décidé de déclencher l'accouchement. À 9h du matin, ils ont injecté un produit censé amener des contractions et ouvrir le col.
Plusieurs plus tard, aux alentours de 21h, le bébé était en souffrance fétale. Contractions trop fortes et le col pas.
pas assez ouvert faisait que son rythme cardiaque plongeait soudain pendant de longues secondes.
La machine faisait des bips de plus en plus réguliers, inquiétants. À 22h, une gynécologue, appelée par la sage-femme, entre dans la pièce. Elle regarde la feuille du monitoring et elle demande une césarienne en urgence.
Tout à coup, il y a 10 personnes qui ont fait irruption dans la chambre pour préparer le départ au bloc opératoire. On m'a lancé des protections stériles enfilées. Paniqué, j'ai tout mis à l'envers. Le chausson prévu pour les pieds s'est retrouvé sur ma tête et la charlotte sur l'un de mes pieds.
Et là, la sage-femme nous dit « Si je vois que le bébé va pas bien, je l'emmène tout de suite avec moi, ok ?»
C'est là, à ce moment précis, que j'ai invoqué Dieu pour la première fois de ma vie. Une sorte d'invocation imbécile et maladroite, une invocation intérieure. En moi-même, j'ai dit cette phrase « Tu vas pas me faire ça quand même ?» Il n'y avait pas le mot Dieu dans ma phrase, mais clairement, c'est à lui que ces mots étaient adressés. J'aurais au moins pu le dire sous la forme d'une prière polie, mais non. J'ai dit, tu vas pas me faire ça quand même.
Et puis la césarienne a eu lieu. Il avait la tête en forme de cône à force d'être resté coincé dans le bassin. La sage-femme l'a pris dans ses bras et nous a demandé comment il s'appelait. On a dit Joachim.
Quelques jours plus tard, une amie de la famille nous apprenait que Joachim était le prénom du père de Marie, la mère de Jésus.
Manière. Que l'Évangile y rejoigne tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Que Dieu vous bénisse.
Vous avez perdu vos clés et le réflexe pour beaucoup, ça peut vous faire sourire, invoquer Saint Antoine de Padoue. Mais pourquoi ? Comment ?
9 mai 2019 après Jésus-Christ. Je roule dans mon village d'enfance, Champagne au Mont-d'Or. 5600 habitants, une nationale qui coupe le village en deux. Je viens pour interviewer mon père sur ses racines chrétiennes. Ce qui frappe le visiteur qui est jamais venu quand il arrive à Champagne-au-Mont-d'Or, c'est le nombre anormalement élevé d'agences bancaires et de coiffeurs. Alors là, nous sommes face au clocher de l'église. Il est midi moins. Sujet, c'est mes racines chrétiennes. Et je repensais à notre bibliothèque familiale. Il y avait beaucoup d'ouvrages sur le marxisme, le communisme, du Freud, des polars, des BD de Gottlieb, mais aucune Bible. Il n'y avait pas de Bible. Tu ne nous as pas éduqués dans la foi religieuse. Et même à certains moments de notre enfance, on a pu te voir très anticlérical.
Oui.
Donc mon athéisme, il est un peu hérité, en fait, de toi et de maman. Et je viens te voir parce que Toi, tu as une histoire autre, c'est que tu as un athéisme que tu t'es forgé, c'est-à-dire que tu as été croyant.
C'est cela. D'abord, il y a toute cette période où, effectivement, j'ai la foi, c'est-à-dire où parce que je veux me convaincre que Dieu existe. Quoi. Enfin, je veux d'abord et avant tout me convaincre de cette réalité qui est d'ores et déjà quelque chose qui est empli de doutes. Alors, quand j'ai grandi, je suis venu à me réapproprier la foi par un sentiment d'appartenance à l'Église catholique. Alors, sentiment d'appartenance qui était lié aussi au fait que j'étais dans un désert affectif. Mmh. Hein? Mes parents ne représentaient pas l'amour, enfin, c'est-à-dire que les parents, en général, donnent à leur enfant. Voilà. Et bon, donc...
Tu veux dire, c'est que l'amour qui te manquait dans ton foyer familial, il t'était en partie donné par ces hommes de Dieu, non tu...
C'est ça. Tu remarqueras, si tu as pu assister à une messe, à quel point l'amour de Dieu, de Jésus-Christ, etc., est hyper présent, quoi. Hein? C'est-à-dire que ça s'est donné... À profusion, quoi, outre... oui, c'est-à-dire... Alors, pour quelqu'un qui, comme moi, était en manque affectif, évidemment, ça représentait quelque chose de précieux, enfin, qui était... Voilà. Mais j'ai pris conscience de mon athéisme beaucoup plus tard, quoi. Hein, c'est-à-dire, donc... j'ai perdu la foi parce que je ne l'ai jamais eue. Voilà, si je pouvais résumer en une phrase, ça serait celle-là, quoi. C'est plus une volonté de m'accrocher à quelque chose qui m'envoyait de l'amour que pour autre chose, quoi. Et pas de l'amour en Dieu, mais de l'amour, parce que j'en manquais. Tiens, voilà, ah. Jean-Paul.
Salut Jean-Paul.
Salut Thomas.
Salut, ça va ?
Ça va.
Tu vas ?
Ça va.
On va s'installer là-bas. Alors, est-ce que tu as retrouvé des documents ?
Ça, c'est moi, en communion. Je vais marquer dessus. Ouais. Et puis, Alain. Tu étais en brosse, regarde.
Je me rappelle bien,
C'était notre premier costume qu'on nous achetait, la première chemise blanche et la cravate, les chaussures noires, et puis le fameux brassard pour les communions, et donc le costume, les chaussures noires vernies, le chapelet, le missel, hein, la petite pochette, ouais. Voilà, c'était l'attirail du communion.
Et alors toi, comme t'as 4 ans de plus que...
Ouais, 3 ans et demi.
3 ans et demi.
Il est top 47, février 44. Et on allait tous les jeudis matins au catéchisme, on faisait notre communion. Donc on allait à l'église Notre-Dame de Bellecombe, dans le 6e arrondissement. Et puis le lundi, on faisait une confirmation à Fourvière, le lundi de Pentecôte.
Tu te souviens des moments où tu devais te confesser ?
Oui. On ne savait pas quoi dire. Le gros problème, c'était qu'est-ce que je vais raconter ? Mais à l'époque, on utilisait les confessionnals. Hein. Après, ils disaient, vous récitez deux pater, trois. Et puis voilà, puis on récitait, puis on s'en allait. Voilà. Là, on avait du mal à trouver qu'est-ce qu'il fallait dire. Enfin, moi, c'est ce que je me rappelle. Et toi ?
Le même souvenir.
Et ben voilà.
Parce qu'à chaque fois que je devais aller me confesser, quand je me retrouvais avec le curé, je me sentais extrêmement mal à l'aise, quoi. C'est-à-dire que la peur me venait au ventre. Parce que j'étais obligé d'inventer des, entre guillemets, péchés. À la limite, j'aurais dû me confesser la confession suivante de ce que j'avais menti de cette fausse confession. Voilà. Voilà. Donc, c'était des fausses confessions. Et donc, c'est pour ça que ça m'a marqué. Hein. C'est-à-dire, à chaque fois que j'allais me confesser, j'allais pécher. C'est quand même ça, globalement, l'exercice que je faisais. Bon, voilà.
Et sur la communion, est-ce que tu as un souvenir de...
Oui, le jour de ma communion, Ah, donc tu défiles devant l'évêque. Alors je me souviens qu'on nous demandait de confirmer la foi, et notre foi, et ça passait par le fait de commencer par dire notre prénom en latin. Alors bon, bah moi j'étais drôlement enquiquinet, quoi, parce que Alain, ça faisait Alanus, qui était pas très... Bah oui, c'est pas terrible. Non, avouez. Bon, donc... Donc, si vous voulez, c'est le cas de le dire, j'étais emmerdé. Donc, j'ai dû bafouiller à ce moment-là pour ne pas avoir à dire Alanus, mais c'est l'évêque qui m'a rappelé à l'ordre.
Donc, tu es devenu communiste. Et donc, au-delà de ce choix d'orientation politique, est-ce que, même étant engagé dans les jeunesses communistes, tu avais toujours la foi à ce moment-là
où non.
Là, c'était fini, là.
J'ai liquidé la foi à 14 et demi, 15 ans. Oui, non, j'ai pas quitté la foi pour aller vers une nouvelle foi qui aurait été la religion communiste.
Non, tu fais pas de lien entre...
Non. Pour moi, le communisme n'a jamais été une religion. Donc, ça a été un engagement clair, rationnel. Donc, non, ça ne m'est pas venu à l'idée un instant.
Allô, maman ?
Ça y
est ? Ouais, j'y suis là, mais... Tu connaîtrais pas le numéro de l'allée ?
Ça t'a pas trouvé le gardien ? Tu prends l'allée parallèle, la grande allée centrale sur la gauche.
Ouais.
Quand tu avances, tu dois voir de dos, comment dire, comment s'appelle une tombe, enfin un machin derrière. Là.
Ouais.
Qui est en marbre noir.
Ouais.
Donc on la voit assez bien, c'est la deuxième sur la gauche.
Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive sur la terre comme au ciel.
Que votre volonté
soit faite sur la terre comme au ciel.
Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive. Et après, je l'ai bien fait. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si on m'aide pas, je sais plus.
Alors je vous salue Marie, pleine de grâce, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, et ainsi de suite.
Que cherchez-vous au soir tombant, avec des cœurs aussi brûlants, où courez-vous en abaissant vos têtes?
Tout simplement. Moi j'aime la crucifixion.
La passion du Christ.
La passion, c'est sa passion de mourir sur une croix.
Non mais passion, ça veut dire souffrance.
Parce que la passion, là... S'il aime qu'on lui foute des coups partout, il avait qu'à le dire avant, on l'aurait fait, hein.
Ça y est, j'ai trouvé. C'est allée C7, troisième tombe à gauche. Tu m'entends ? Donc là, je suis devant la tombe. Donc il y a les Philippe, les Nicole. Donc les Philippe.
Voilà, et les Dupuis. Donc Philippe.
Marcel, Philippe.
C'est dès le premier. Marcel, voilà mon grand-père. Enfin, Gérard, Nicole.
Ton père.
Et ma mère, qui elle est morte en mars 2011. Voilà. Mais ils sont tous et il n'y a plus de place. Voilà.
Et tu te rappelles du rapport à la religion de ta mère?
Ma mère, elle avait une foi très particulière. Enfin,
elle croyait en Dieu, disait-elle, mais elle a très vite cessé de pratiquer.
Ouais.
Mais par exemple, quand on lui avait confié le chien qu'elle l'avait perdu, là, elle allait tous les jours mettre son cierge en priant Dieu, et comme il est revenu, le rouxi, elle estimait que Dieu l'avait écouté. Mais le reste du temps, non, elle pratiquait pas vraiment, elle le sollicitait beaucoup.
Ouais. Et grand-père ?
Alors, mon père, un jour, il m'a dit qu'il avait hésité, il avait une certaine attirance par cette foi, parce qu'il a eu cet élan, et après, donc, il croyait plus en Dieu du tout, parce qu'à la fin, quand il est mort, à la veille de sa mort, on a beaucoup parlé. Je lui ai dit, t'as peur? Il m'a dit, non, pas du tout. Je lui ai dit, tu crois en quelque chose? Il me dit, non, je crois rien du tout. Mais je veux être tranquille, dormir, et arrêter d'être un vieux con pour les autres. Voilà, ce sont ses dernières paroles qu'il m'a faites. Et que non, il attendait pour le bras du coup.
Sans bras, sans larmes, pauvre et dérisoire âme, parce qu'il est des douleurs qui ne pleurent qu'à l'intérieur. Puisque
en quittant le cimetière, je repense à l'enterrement de ma grand-mère. J'avais 33 ou 34 ans, je m'étais promis de ne pas pleurer. Et j'ai fini par fondre en larmes comme un petit enfant au moment où a retenti dans l'église la chanson « Puisque tu pars » de Jean-Jacques Goldman. D'ailleurs, les seuls moments où j'ai pu voir ma mère ou mon père pleurer littéralement comme des petits enfants, avec la certitude que c'est comme ça qu'ils pleuraient quand ils étaient enfants, c'est aux enterrements de leurs parents. Je me souviens très bien de ma mère marchant pour quitter le cimetière où l'on venait d'enterrer son père, et qui me disait, la gorge prise par les sanglots, je ne le reverrai plus jamais, avec une sorte d'interrogation dans la voix, comme si elle attendait de moi que j'infirme cette vérité. J'ai appris récemment que cette chanson de Jean-Jacques Goldman faisait partie du top 10 des chansons d'enterrement.
Et après, il faut qu'on se fasse un
et coup. Alors après, je me souviens un peu de ça.
You'll hear the trumpet sound. Ah oui, c'est ça.
You'll hear the trumpet sound.
Et là. Looking to my God's right hand when the stars begin to fall. Oui, c'est ça. Oula, dis donc, ça c'est vieux ça.
Ouais.
Alors du coup, attends, mais je vais faire quoi? Alors je vais faire la voix de Dutz.
My Lord, what a morning. My Lord, what a morning.
Ah, oui. Ah mais attends, du coup, attends, mais je vais changer de voix alors.
Montélimar, 10 mai 2019, après Jésus-Christ.
Ouais.
Je chante en duo avec le père Éric Lorinet. Éric a été mon chef de chœur dans une chorale à laquelle j'ai participé entre mes 12 et mes 17 ans. À l'époque, il n'était pas encore prêtre. Il était ingénieur en informatique. Notre chanterie faisait partie du réseau À Cœur Joie, un mouvement historiquement lié au scoutisme. On y chantait quelques chants sacrés, mais aussi beaucoup de chants profanes, et même quelques chants limites paillards.
My Lord, what a morning. My Lord, what a morning.
Oui, on peut dire que c'est ça.
C'est pas grave. On termine.
My love, my love.
Attends, merde, pardon. Oui, c'est ça.
My love, what a morning when the stars begin to fall.
C'est ça? Oui, ok. À ma queue. Ouais, c'est ça. On refait du début alors? Je vais sortir les verres là.
Tu m'as dit rouge.
Ouais. Hein? Je vais me permettre de. Oh bah là là là, oui. Ou ça, tu vas voir, ça fait quoi rendu, hein, méfie-toi. Tiens.
Merci.
Tu sais, parce que les racines, si elles ressortent, t'es foutu.
Bah ouais, ouais.
Mais bon. Alors?
Ah ouais, c'est très bon, ouais. Très très bon.
Ça fait. Si je compte bien, 20 ans que t'es prêtre.
Oui, ça va faire 19 ans au mois de juin, là, ouais. Ouais.
C'est à partir de quand qu'on est appelé père? Est-ce que tu tiens, toi, à cette appellation? Et qu'est-ce que ça signifie, en fait, dans la... Je sais pas, dans la liturgie catholique?
Quel sens ça a? Est-ce qu'on est le père des gens? Je crois pas, hein. Heureusement, non. Sinon, on aurait beaucoup d'enfants. Non, je pense que c'est peut-être l'idée... L'idée qu'il y a derrière, ça serait peut-être de dire que on a une préoccupation quand même forte des gens qui nous sont confiés. Le choix du célibat qu'on fait, c'est donc pas de femme, pas d'enfant. Bon, et donc du coup, ce célibat donne une disponibilité, alors d'agenda, oui, mais aussi d'affective pour les gens. On pourrait dire ça. Comme un père prend soin de ses enfants.
T'as eu des envies de paternité, toi, avant de te lancer dans la... Prêtrise ou...
Ah ben oui, pour moi, enfin, quand j'étais ingénieur là et chef de chœur, au début, pendant mes études, l'idée m'était passée, quoi. Donc je m'étais dit, bah tiens, je vais me marier, avoir des enfants et tout ça. Et puis finalement, non. Bon, et si faut peut-être que je passe la seconde, parce que sinon, on va pas manger.
Vas-y, vas-y. Tu veux que je t'aide un peu? Comment tu vas décongeler ton pain?
Comme ça. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. La purée est un peu dedans.
Samedi 11 mai 2019. Et on monte vers où là, Eric?
Au sanctuaire Notre-Dame de Montchamp.
D'accord.
Voilà. Donc il y a un pèlerinage tous les ans qui monte là-haut, un chemin de croix le vendredi saint. Et puis l'idée de monter, c'est on en bave un peu dans la montée, quoi.
Et d'ailleurs, la marche, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, c'est important, la marche. Ah ben, Moïse oui. Qui a pas mal marché.
Ah oui, juste 40 ans. Mais oui.
Il y a Jonas dans Ninive.
Oui.
Et puis bah, dans le Nouveau Testament, il marche aussi beaucoup.
Bah, Jésus fait que ça. Hein.
Il fait que ça.
Oui. Et alors ce qui est intéressant, c'est que les auteurs bibliques ont aussi signifié que Dieu marche avec. Dieu marche avec son peuple. Quoi.
Oui.
Et dans les formules d'alliance, souvent on entend ça. Par exemple, dans l'Exode, puisque tu parlais de l'Exode, dans le désert, la colonne de nuée qui signifie la présence de Dieu, elle est en avant du peuple. On commence à voir le paysage, là. C'est-à-dire que de ce côté-là, là, pour l'instant, c'est le sud, ouais. Avec la zone de Pierre Latte ici, les éoliennes. On verra mieux là-haut, au virage d'après. avec derrière nous, belle Ardèche. Qu'on voit au fond, là, avec le Rhône qui passe.
Et donc là, on en est à combien de croix? On a dépassé combien de croix, là?
Ah, tu me poses une colle.
Il y en a 14, c'est ça?
Et alors, au total, il y en a 14. Et alors, je sais pas, comme elles sont certaines, ben voilà, là, il y en a une qui...
Ah oui.
Il lui manque un gros bout. Et je sais pas s'il y a le numéro dessus.
Comment il s'appelait le vin que tu m'as servi hier, déjà?
Ah, c'est un vin c'était de Montagu. domaine des agates.
Et quand on est amateur de vin comme toi, j'imagine qu'on sélectionne un peu son vin de messe ou...
Ah oui. Ah bah oui. Parce que s'il est pas bon, ça marche pas. Non mais au-delà de la plaisanterie, je pense qu'il y a une question de vérité du symbole. C'est aussi de réhabiliter la beauté et puis le plaisir partagé. Dans un village, une fois, j'arrive pour la messe, et puis la dame qui prépare les affaires de la sacristie, elle sort de son sac une petite bouteille, les petits vins blancs pour la sauce, là, tu sais, les trucs pas bons, quoi. Mais je dis, c'est pour quoi faire, ça? C'est pour la messe? Je dis, non, c'est révolutionné. Ça marche pas, hein, si le vin est pas bon, Jésus vient pas vraiment. La dame, elle m'a regardé, elle me dit, ah bon, vous croyez? Je dis, oui. Bon. Elle me dit après, mais est-ce que Sauterne ou Montbazillac, ça irait? Je dis, ouais, c'est parfait. Et de fait, après, les messes d'après, elle avait tenu parole et c'était un très bon vin blanc. Bah tiens, là, on voit bien l'autoroute, là.
Ouais, autoroute.
Avec l'autoroute et le grand ruban, là, que tu vois passer là, avec les camions et tout ça.
Et la centrale, elle est...
Alors, tu vois les fumées du Tricastin tout droit là-bas.
Ah ouais, d'accord.
Au fond.
Moi, n'ayant pas la foi et toi l'ayant, on a quand même un point commun, c'est que on aime les textes des évangiles.
Oui.
Et que on admire Jésus de façon différente sans doute, mais il y a une de ces phrases que j'adore, c'est « Ils ont des yeux, mais ils ne... »
Ils ne voient pas, les oreilles n'entendent pas, oui. Mais c'est vrai que c'est... Enfin... En même temps, il faut se mettre à la place des gens. C'est-à-dire que le type, il arrive en disant « Je suis le fils de Dieu ». Donc, bon, on pourrait le regarder et dire « Ben oui, moi, je suis la reine d'Angleterre et ça va ». Donc, au-delà de ça, c'est toute la question du voir et du croire aussi qui est derrière.
Ouais.
Et c'est la question qui va habiter aussi les disciples quand ils vont voir Jésus ressuscité.
Ouais.
Parce qu'ils le voient, mais ils n'arrivent pas à croire que... Enfin, il y a quelque chose qui est très dur à croire, en fait.
Et d'ailleurs, mon prénom, c'est le prénom du saint qui...
Ah, mais Thomas, il est
extraordinaire. Au centre de cette histoire-là.
Oui, bien sûr. C'est lui qui pose l'acte de foi le plus beau de tout l'évangile. Quand il voit Jésus après, la deuxième fois, là, qu'il a droit à son apparition au perso, ouais. Où Jésus vient lui dire, bah tiens, mets ta main, touche, machin, et Thomas ne touche pas. C'est pas...
Ah, il touche pas.
Et non.
Ah, j'ai mal lu.
Eh ben, alors, en fait, c'est assez fin.
Ah,
hein,
c'est vrai, il lui dit, mets tes doigts, mais
voilà,
il n'y a pas
de... Cesse d'être incrédule, sois croyant. Et Thomas répond cette phrase extraordinaire, mon Seigneur et mon Dieu.
Ouais.
Mais il n'y a jamais... Enfin, il ne me semble pas qu'il y ait d'évidence, quoi. Parce que souvent, la foi, enfin, elle a un parcours un peu chaotique. C'est quand on est enfant, on a la foi héritée avec Dieu, Père, qui règle tout, quoi.
Ouais.
Bon, et puis tout d'un coup, on se cogne au problème du mal et de la souffrance. Soit la sienne, soit celle de quelqu'un qu'on aime, soit du monde, peu importe. Et cette question-là, derrière, vient immédiatement le pourquoi. En disant, si Dieu était tout-puissant, pourquoi il y a tout ça? Bonne question, il n'y a pas de réponse. Et c'est ça qui est déstabilisant.
Ouais.
Et du coup, si on n'arrive pas à passer au fait du Dieu avec nous face à ça, en se disant, mais Dieu aurait dû régler ça, comme il ne l'a pas réglé, je le jette de mon paysage, quoi.
Ouais.
Et mais c'est les trucs. La Shoah a été un moment bouleversant pour la foi, des juifs, mais aussi des autres.
Mmh.
Parce qu'en disant, mais qu'est-ce que Dieu fait là?
Mmh.
Et on raconte cette histoire là qu'un gars était un type dans un camp de concentration, il pendait un gamin, et puis il y a un type athée qui se tourne vers un croyant qui lui dit, hey, alors il est où ton Dieu? Et le gars il dit, il est avec le gamin.
Mmh.
Bon, c'est une réponse qui peut pas être satisfaisante, parce que la mort d'un enfant peut pas être satisfaisante, c'est pas possible. Mais c'est dire que c'est plutôt le Dieu avec nous, quoi. Bah, c'est le nom de Jésus d'ailleurs, Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Hein, mais...
Oui. Ok. On est arrivé en haut là ou...
Oui, ça y est.
D'accord.
Alors là, on a une vue extraordinaire. Et donc, on voit Montélimar ici, là. Le Rhône qui coule là-bas.
Ah,
le
oui,
ruban
oui.
qui est le long des montagnes de l'Ardèche, à gauche.
Et il y a une antenne relève magnifique. Une antenne relève.
Il y a des radios et tout ça, là.
Ah, il y a des radios qui émettent de là. Souvent, moi, je me pose la question de la voix de Dieu. À quoi elle pourrait ressembler? En fait, je me pose la double question. À quoi pourrait ressembler la voix de Dieu et comment Dieu, il entend? Comment il écoute?
Oula! Alors, là, déjà,
Enfin, en supposant qu'il existe.
Oui. Alors, ça d'accord, évidemment. Les manifestations divines, tu en as plusieurs sortes. Souvent, ce qu'on appelle une théophanie dans le jargon. Et c'est de... Alors, il y a souvent tout est secoué, C'est-à-dire que d'un côté, il peut y avoir le tonnerre. Enfin, je veux dire, par exemple, pour Moïse, quand il est au sommet de la montagne, oui. Il y a beaucoup de bruit, il y a du vent, il y a... voilà. Par exemple, le premier livre des rois, le chapitre 19, un truc extraordinaire, où justement, et le prophète Élie en a ras-le-bol. Il dit à Dieu, écoute, tu m'embêtes, j'en peux plus, laisse-moi mourir, non, m'embête pas. Et donc, Dieu va le secouer un peu. Enfin, je résume, hein, mais... Mm. Et donc, à un moment... Élie dit, mais j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ressentir ta présence. Et donc, il y a du tonnerre. Et alors, l'auteur biblique raconte, et Dieu n'était pas dans le tonnerre. Il y a des tremblements de terre, mais il n'était pas là. Et il conclut en disant, il était dans le murmure d'un fin silence. Alors, comment il écoute? Ben, je sais pas. Est-ce que c'est une grande oreille? Est-ce que Dieu entend? Tu vois le vent en train de tourner là sur les fumées. Je pense que le vent du nord est en train de se lever là, là-bas.
Avec les oreilles, mais vous n'entendrez point. Vous verrez avec les yeux, mais vous ne comprendrez point. Parce que le cœur de ce peuple est devenu insensible, et ils ont durci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, pour ne pas voir avec leurs yeux, pour ne pas entendre avec leurs oreilles.
Dans le train qui me ramène à Paris, je regarde l'Évangile selon saint Matthieu de Pasolini. J'ai découvert ce film quand j'avais 18 ans, au début de mes années de faculté, et ça a été mon premier vrai contact avec les mots des évangiles. C'est par ce film que j'ai rencontré Jésus et que je l'ai admiré.
Et vous serez jugé de la façon dont vous jugez d'autrui. Pourquoi dois-tu voir la paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui recouvre aussi ton œil ne te cause nulle gêne?
Au sixième jour, Dieu créa les sonorités du monde. D'abord, il fit un son pour chacun des vents de la terre. Bise, alizé, sirocco, zéphyr, phogonie, harmattan, Squamish, Pampero et tous les autres flux de l'air. Dieu écouta et il dit que cela était bon. Puis il s'occupa des bruits marins, houle, vague, ressac, chant des baleines. Dieu dit que chaque animal terrestre est un cri particulier, que chaque espèce d'oiseau est son propre chant. Et cela fut ainsi. Puis, il inventa le son du baiser humain et celui du tonnerre et tous les bruits diurnes et tous les bruits nocturnes. Il y eut un soir et il y eut un matin. Jour 7.
Nous sommes le jeudi 16 mai 2019. Studio 109 de la Maison de la Radio. Opération Oreille de Dieu. Vukovar, vous me recevez?
Ouais, on vous reçoit, oui.
Ok, on vous met en attente sur le duplex numéro 1. Et Chourniac, vous êtes là?
Chourniac, on est en place.
Ok, et Chourniac sur le duplex 2,
Ensuite, on a duplex 3, Ouderkerk. Duplex 4, Suisse. Duplex 5, Vietnam. 6, Thaïlande. 7, Arctique. 8, Tanzanie. 9, Yémen. 10, Bahamas. 11, Amazonie. On est prêt? C'est parti. On ouvre Vukovar. Ça devrait pas tarder. Et maintenant, on amène Échourgnac et Ouderkerk. Échourgnac d'abord. Là. Et Ouderkerk tout de suite après. Et si on ajoute Westminster, ça donne quoi? Non, c'est un peu trop. On coupe Westminster. On coupe Westminster. Et on fait venir les vaches des Alpes suisses. Est-ce qu'on peut aller écouter le bébé qui vient de naître au Vietnam? Ok. Et avec le coq qui chante aux Bahamas, ça donne quoi? Bahamas, c'est duplex 10, je crois. Pas mal. Est-ce qu'on peut ajouter la Tanzanie, le Guatemala et New York? On coupe tout ça, merci. Et sinon, il se passe quoi là en Thaïlande? Et le Yémen, on peut entendre le Yémen? Et en forêt amazonienne? Et on coupe. Merci. Merci à mon père Alain, à ma mère Sylvie, à mon oncle Jean-Paul, à mon fils Joachim et à ma petite Anouk. Merci à Éric Lorinet, à Isabelle Cypris et Sacha Aluni. Merci à Christophe Rowe et Félix Blum. Avec la voix de François Perrache. Prise de son Marcos Darras, Marc Garvenès et Éric Boisset. Mixage Claude Niort. L'expérience Aurélie Charon et Inès Duperron. C'était Mes racines chrétiennes, une création radiophonique de Thomas Guillaume Bataille et Véronique Samouilov.
Cette semaine, dès jeudi, une nouvelle expérience en podcast dans le jus d'orange de Cléo Cohen et Jeanne Filion, qui racontent avec lucidité et autodérision leur déménagement à Orange pour fuir le rythme urbain et les dérives de la vie moderne. C'est un podcast original en 7 épisodes. Et puis dimanche prochain, Victor Timonier s'est glissé dans un collège à Pantin où les élèves ont inventé leurs mondes imaginaires. En attendant, il est minuit, vous écoutez France Culture, l'expérience et la création, ça continue.